Les pères et mères déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires sous réserve de ses propres capacités. L'enfant doit obéissance à ses pères et mères qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. Non, ce n'est pas un passage de la Bible. C'est l'article 301 du Code civil, alinéa 1 et 2. 2000 ans séparent les deux corpus de textes. D'une époque à l'autre, on se soucie de donner un cadre aux relations parents-enfants. Mais d'une époque à l'autre, on se rend compte que les priorités ont été redéfinies. Dans la lettre aux Éphésiens, les devoirs des enfants sont premiers. Ils sont encadrés par le fameux commandement « Tu honoreras ton père et ta mère », qui a été traduit par « Tu respecteras », mais c'est vraiment ce commandement qu'on connaît tous très bien. Le terme « honorer » prête un peu à confusion, peut-être. On l'a en fait utilisé pour traduire un verbe qui veut dire littéralement « donner du poids ». Il s'agit de donner du poids à ses parents, c'est-à-dire de leur permettre d'avoir une vie digne. On parle bien sûr d'une époque où il n'y avait pas de rente AVS et où la solidarité intrafamiliale était fondamentale. De nos jours, c'est le bien de l'enfant qui prime. On commence par définir les devoirs des parents et l'obéissance des enfants a pour but de les conduire à accepter la protection de leurs bienveillants responsables légaux. On est devenu sensible aux excès d'autorité et aux maltraitances. L'obéissance, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Ceci dit, cette approche qui met le bien de l'enfant au centre n'est cependant pas complètement désintéressée non plus. Notre société a besoin d'une jeunesse équilibrée et fonctionnelle qui se lancera avec énergie sur le marché du travail pour supporter les coûts du vieillissement de la population. Mais dans cette lettre aux Éphésiens, on donne aussi des conseils aux parents. Ne mettez pas vos enfants en colère, ne les irritez pas. Vous avouerez que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein ? N'empêche, un tel souci du bien-être des jeunes est étonnant parce que la société de l'époque ne se souciait pas tellement de la psychologie des enfants. Hier comme aujourd'hui, l'éducation des enfants est donc un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Or, vous admettrez que lorsqu'on donne naissance à un enfant, on n'a pas le mode d'emploi qui est livré avec. Que de pression extérieure pour rendre Junior conforme aux idéaux du monde qu'il le voit naître. Oui, parce que les époques changent, les attentes évoluent, mais la pression sociale demeure. On n'a peut-être plus les mêmes priorités. Nos méthodes éducatives ont changé, bien sûr. On se soucie davantage de l'épanouissement des êtres qui nous sont confiés, de la préservation de leur liberté, de leur intégrité, de leur sécurité affective. On a sans doute bien progressé. Les enfants sont en meilleure santé, ils ont une meilleure éducation, ils sont davantage protégés, en tout cas la plupart du temps et sous nos latitudes. Pour autant, le monde dans lequel ils grandissent n'est pas tellement plus stable. Comment les préparer au chômage, au bouleversement climatique, aux risques géopolitiques, aux crises économiques? Alors on redouble d'efforts pour les armer contre les menaces qui les entourent. On les aide à développer un maximum de compétences pour leur permettre de se maintenir dans une société toujours plus compétitive. On leur transmet des valeurs en espérant qu'elles les soutiendront pour construire un monde plus juste et plus humaniste. Bref, l'éducation n'est pas une sinécure. Et on fait ce qu'on peut. On fait au mieux. Comme le dit le texte de Matthieu, si notre enfant demande du pain, on ne va pas lui donner une pierre. même si l'enfant en question n'est pas toujours très reconnaissant face à son assiette. On ne va pas se lancer sur le thème des repas des adolescents, cette prédication pourrait durer une heure. Mais le texte de l'Évangile ne se contente pas de reconnaître qu'on donne de bonnes choses à nos enfants, il précise « vous qui êtes mauvais ». Et là, on se dit que c'est quand même fort de café. Après tous les sacrifices consentis, on ne mérite pas mieux que ce constat réducteur. Merci bien. Mais je me dis aussi que si on est mauvais, ce n'est pas parce que nous n'en faisons pas assez. C'est peut-être tout simplement parce que nous sommes un peu mal orientés. Nous faisons de bonnes choses, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Élevez vos enfants en leur donnant une éducation inspirée par le Seigneur, dit Paul. C'est d'ailleurs le verset qui a été choisi pour accompagner la campagne d'automne des œuvres d'entraide du DM, que vous pourrez retrouver sur les flyers qui se trouvent sur la petite table à l'entrée de l'église. Et là, c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de ressentir un léger malaise, parce que les institutions religieuses et missionnaires ont commis beaucoup d'injustices au nom du Seigneur, justement. Elles transportent dans le sillage de leur éducation un cortège d'abus spirituels et de maltraitance. Autant de casseroles qu'elles n'ont pas fini de traîner et qui font beaucoup de bruit. C'est une déviance qui nous rappelle que malheureusement l'autorité des adultes peut se pervertir, qu'elle n'est pas toujours l'instrument d'une élévation et d'une libération, mais qu'elle peut soumettre et détruire. Or, nous dit l'apôtre Paul, cette autorité ne devrait pas être une cause de colère pour les enfants. Elle devrait créer chez eux un désir de coopération. Alors comment faire pour bien faire? Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Cherchez, vous trouverez. On n'aime pas tellement demander. On nous a appris qu'il fallait être autonome. On nous a aussi appris que tout se mérite, qu'il ne faut pas devenir un poids pour les autres. Alors, nous déployons une énergie colossale pour rendre les enfants autonomes et capables de restituer ce qu'ils ont reçu d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être que nous sommes un peu mal orientés. Peut-être que le terreau dans lequel notre vie s'enracine s'est asséché. Peut-être que nous avons oublié de le nourrir avec le bon engrais. Cet engrais, c'est la grâce. C'est elle qui nous parle à travers les lignes de l'Évangile. Elle nous dit « Écoute, on ne va pas s'encombrer de toutes les injonctions qui te tombent dessus depuis toujours. On va partir de ce que tu es et de là où tu en es. Peu importe que tu aies fait des erreurs, tant pis si tu n'as pas atteint tous tes objectifs. Moi, je t'offre un chemin au-delà de tout ce qui te semble insurmontable. » C'est un peu contre-intuitif parce que nous apprenons à nous orienter en fonction des buts qu'on se fixe. Généralement, on estime qu'on ne les atteint jamais vraiment. Ça commence à l'école. On nous encourage à être les meilleurs. Et quand on n'y arrive pas, on nous dit « tu peux faire mieux ». Mais la parole de grâce qui nous rejoint nous dit, elle ne nous dit pas « tu peux faire mieux », elle nous dit « tu peux faire autrement ». Ce n'est pas tellement la destination que tu as projetée qui compte, mais le chemin sur lequel tu es engagé. Ce chemin, je l'ouvre pour toi. Rien ni personne n'a le droit de le transformer en impasse. Il n'y a pas de vie ratée. Il n'y a que des détours et des réorientations. Si tu utilises la lumière que je te donne pour éclairer ta route, tu ne peux pas te perdre. Cette lumière, c'est la confiance. Alors la première chose à transmettre, c'est sans doute cette parole de vie. C'est elle qui crée le désir de la coopération. parce qu'elle repose sur l'acceptation de ce qui est, sur l'accueil de qui on est et sur l'espérance d'une vie plus forte que tout ce qui la menace. Elle est libératrice parce qu'elle relativise nos exigences et qu'elle allège ce qui pèse trop lourd. Alors non, nous ne possédons pas de recette miracle pour affronter les défis qui attendent nos enfants. Mais nous pouvons leur promettre que leur avenir reste ouvert, quoi qu'il arrive. Nous n'avons pas à être parfaits et infaillibles pour être des exemples. Il suffit de nous enraciner dans la grâce et de la laisser rayonner à travers nos actes et nos paroles. Nous pouvons témoigner l'art d'être en chemin, ouvrir des portes quand l'horizon paraît bouché et trouver des issues quand la fatalité étend son ombre sur nous. Nous ne sommes pas des détenteurs de vérités immuables, mais des veilleurs qui portent bien haut la lampe de l'espérance, des chercheurs de sens qui posent des jalons de lumière sur le parcours de vie de celles et ceux qui leur sont confiés. Demandez et vous recevrez. Amen.